VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 1er décembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sirulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Accord Washington-Niamey sur l'utilisation de drones armés au Niger.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, inquiet de l'instabilité politique qui règne au Togo.
Le président français Emmanuel Macron a conclu hier au Ghana sa tournée africaine.
En République démocratique du Congo, des leaders de l'opposition et quelques autres protestataires brièvement interpellés hier lors de manifestations anti-Kabila.
Appel d'Amnesty International aux autorités mauritaniennes pour la libération immédiate et sans condition de 5 défenseurs des droits de l'homme.
Au Sénat américain, report hier soir par la majorité républicaine du vote sur la réforme du code fiscal.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis et le Niger sont parvenus à un accord permettant à Washington d'utiliser des drones armés contre les groupes de terroristes djihadistes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un officiel américain a dit à la Voix de l'Amérique que cet accord, complété cette semaine, constitue un élargissement majeur des efforts militaires américains pour combattre le terrorisme en Afrique. On ne sait pas si ces drones seront utilisés pour mener des frappes ciblées ou à des fins défensives.
Jusqu'ici, les États-Unis n'ont effectué de raids aériens en Afrique contre des terroristes opérant en Libye et en Somalie. Selon des officiels américains, les drones basés au Niger élargiront les capacités militaires contre les extrémistes d'Afrique de l'Ouest, Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique et combattants du groupe État islamique. Le porte-parole du Pentagone s'est cependant refusé à commenter la nouvelle.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est dit inquiet de l'instabilité politique qui règne au Togo, alors que des milliers de manifestants sont encore descendus dans la rue hier à Lomé pour demander la démission du président Fornia Singbe. Le point avec Solange Nyamulisa.
Le président Buhari a indiqué que l'instabilité au Togo aura des conséquences régionales et nous devrons payer le prix du développement. Lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, en marge du sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. Le président nigérien a ajouté qu'il doit y avoir une solution à la crise. Les amis de l'opposition et des autorités doivent les encourager à prendre des mesures conjointes. Ils doivent regagner une confiance mutuelle. À Lomé, les marches ont eu lieu hier dans le calme pour la seconde journée consécutive après 3 mois de contestation populaire pour demander une limitation rétroactive du mandat présidentiel et la démission du président Fornia Singbe. Resté silencieux pendant des mois, M. Nyasimbe a fait savoir la semaine dernière qu'un dialogue avec l'opposition devrait avoir lieu d'ici à quelques semaines.
Amnesty International exhorte les autorités mauritaniennes à libérer immédiatement et sans condition 5 défenseurs des droits de l'homme, membres de collectifs de veuves et d'orphelins. Ces activistes ont été arrêtés mardi dernier lors de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance et étaient toujours en détention hier. Jacques Aristide.
D'après Amnesty, les 5 militants ont brandi des banderoles et distribué des tracts appelant à l'ouverture d'enquêtes et de poursuites pénales à l'encontre de personnes qu'ils accusent d'être responsables des exécutions extrajudiciaires commises entre 1989 et 1991. C'était lors du passage du cortège du président Mohamedou Abdelaziz à Kaïdi dans le sud de la Mauritanie où était célébrée cette année la fête nationale. En vertu d'une loi d'amnesty de 1993, les auteurs de ces exécutions n'ont pas été jugés. Accusés de tentative de coup d'État sous le président Maawiya Ould Taïa, 28 militaires négro-africains ont été pendus le 28 novembre 1990, jour du 30e anniversaire de l'indépendance, lors d'une période de forte violence communautaire. En 2015, le président Aziz avait indiqué que des réparations matérielles avaient été accordées. Il avait accusé les organisations de défense des droits de l'homme de semer la haine et la division entre les communautés arabes et négro-africaines de Mauritanie, mais pour Amnesty, c'est la réparation morale que les militants continuent d'exiger.
Le président français Emmanuel Macron a conclu hier au Ghana sa tournée africaine. Tout comme son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, il a souhaité que les jeunes Africains restent et réussissent en Afrique. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous devons nous développer nous-mêmes, convaincre la jeunesse que les opportunités sont ici, chez nous. C'est le manque d'opportunités qui pousse les gens à partir, a déclaré le président Nana Akufo-Addo. Pour sa part, le président Emmanuel Macron a soutenu que l'Europe peut accueillir la jeunesse africaine si sa circulation est organisée, ajoutant que la plupart des migrants qui sont en Libye payent des passeurs sans scrupules. Comme en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, le président français a souhaité nouer des partenariats dans l'éducation pour développer des diplômes conjoints entre universités ou grandes écoles françaises et africaines. Il a aussi promis que son pays soutiendra la formation des enseignants ghanéens pour multiplier les classes bilingues français-anglais. Le président Macron dit vouloir ainsi encourager la francophonie en mettant l'accent sur une francophonie conquérante. Cette visite de M. Macron est la toute première effectuée par un président français au Ghana.
En République démocratique du Congo, opposants arrêtés, manifestations violemment dispersées, quelques blessés. C'est ce qui s'est passé hier lors du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition congolaise qui demande une transition sans Kabila dès la fin de l'année. Selon l'AFP, seul un noyau dur de militants a répondu à l'appel du chef du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, qui avait demandé à tous les Congolais de descendre dans la rue contre le calendrier électoral renvoyant les élections au 23 décembre 2018. Nous y reviendrons en seconde partie.
Au Congo-Brazzaville voisin, des journalistes qui venaient assister à la conférence de presse des avocats d'un opposant actuellement en prison ont été agressés par des individus en civil hier dans la capitale. C'est ce qu'a rapporté l'un des journalistes visés, le correspondant de l'AFP et de RFI. L'agression a eu lieu dans les locaux du journal La Semaine africaine pour rencontrer les avocats de l'ex-ministre passé à l'opposition, André Okombi Salissa. Joint de Kinshasa par l'AFP, le ministre congolais de la Communication Thierry Mungala a affirmé tout ignorer de l'agression. S'il y a un lien entre cette agression et la qualité de journaliste des personnes agressées, je condamne cette agression évidemment, a-t-il ajouté.
Retour du FMI au Zimbabwe après la chute de Robert Mugabe, le Fonds monétaire international promet d'envoyer sur place début décembre une équipe afin d'évaluer la situation. Des précisions avec Eddie Isango.
Il s'agira, selon le porte-parole du FMI, d'une visite ordinaire. Elle intervient une semaine après la chute de Robert Mugabe qui a laissé le pays dans une crise économique profonde. Le FMI est prêt à soutenir les nouvelles autorités zimbabwéennes dans leurs efforts pour s'attaquer au déficit budgétaire, mettre en place les réformes structurelles dont le pays a besoin, a déclaré Jerry Rice. Les porte-parole du FMI reconnaissent que les Zimbabwe étaient confrontés à des défis dans un grand nombre de domaines pour restaurer la croissance et qu'il aura besoin d'un substantiel effort international pour sortir de son marasme économique. Emmerson Mnangagwa, le nouveau chef de l'État, a déclaré lors de son investiture faire de la relance économique son cheval de bataille. Il veut créer des emplois et favoriser les retours des investissements étrangers dans son pays qui a été longtemps cible des sanctions. Il a donné 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson risque encore, semble-t-il, de perdre son poste après de nouvelles informations selon lesquelles le président Donald Trump voudrait le remplacer dans les prochaines semaines par le directeur de la CIA, Mike Pompeo. Selon plusieurs médias citant des officiels de la Maison-Blanche ayant requis l'anonymat, M. Trump s'entend mieux avec M. Pompeo. Ses relations avec M. Tillerson étant devenues plutôt tendues depuis presque un an.
L'administration Trump n'est pas allée jusqu'à préconiser hier un changement de régime à Pyongyang après avoir appelé tous les pays à couper les liens avec la Corée du Nord en réaction à son dernier tir de missile balistique. Cette administration se focalise sur une grande chose quand il s'agit de la Corée du Nord et c'est la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'est notre priorité numéro un, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders.
Les républicains au Sénat ont reporté hier soir le vote sur la réforme du code fiscal américain, pendant qu'ils tentent désespérément de mettre au point certains détails pour satisfaire aux demandes d'un certain nombre de fonds faucon de la fiscalité. Et par ailleurs, le Congrès américain devrait voter une loi de financement temporaire pour éviter une paralysie des administrations fédérales. C'est Paul Ryan, président républicain de la Chambre des représentants, qui l'a annoncé hier. Le point avec Abdourahman Dia.
Paul Ryan, lors d'une conférence de presse hier au Capitole, a assuré qu'une résolution de court terme est nécessaire pour garder l'État ouvert pendant que les négociations continuent. Le gouvernement fédéral ne peut légalement fonctionner que si le Congrès, qui tient les cordons de la bourse, vote son budget. Cette loi de financement temporaire, nommée « Continuing Resolution » dans le jargon parlementaire, doit être adoptée par la Chambre et le Sénat avant le 8 décembre prochain. La majorité républicaine et l'opposition démocrate sont engagées dans un bras de fer. Les démocrates minoritaires ont néanmoins un pouvoir d'obstruction au Sénat. L'un des points de discorde porte sur les illégaux arrivés jeunes avec leurs parents aux États-Unis, surnommés les « Dreamers ». Donald Trump a abrogé un programme de Barack Obama leur donnant des papiers temporaires et sans vote du Congrès, ils sont menacés d'expulsion à partir de mars prochain.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
En Afrique, les patients et les ministères de la Santé dépensent environ 38,5 millions de dollars pour de faux médicaments. Chaque année, ils causent 116 000 décès en Afrique subsaharienne. Un rapport de la pharmacopée américaine indique que d'ici 2050, ces médicaments contrefaits coûteront 100 000 milliards de dollars au monde. Le FMI, disposé à aider le nouveau régime du Zimbabwe pour sortir le pays d'une crise économique catastrophique, cette institution financière souligne la nécessité d'une aide internationale d'ampleur. Une équipe doit se rendre à Harare début décembre pour apprécier la situation sur le terrain. Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a promis de relancer l'économie, de créer des emplois et de favoriser le retour des investissements étrangers. Il a donné 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays. Le PEP et ses partenaires ont prolongé de 9 mois le plafonnement de production de pétrole. D'après les pays membres, ce pacte est conclu à Vienne et destiné à stabiliser le redressement des prix du brut. Il prendra effet à partir de mars prochain. Le cours du baril de Brent évolue désormais au-dessus des 60 dollars. En février 2016, il avait plongé jusqu'à 26 dollars.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Veillée d'armes à Moscou avant le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018.
Et le grand tirage au sort de la phase finale de cette Coupe du Monde, c'est tout à l'heure à Moscou, à partir de 15h temps universel. Un système de tête de série assorti d'une contrainte géographique. Le trophée sera présenté par Miroslav Klose, champion du monde 2014 et meilleur buteur historique des Coupes du Monde, 16 buts au total. On évoque également la présence de Maradona. On rappelle, Idrissa, 4 chapeaux, 8 équipes chacun. Ces chapeaux ont été déterminés sur la base d'un classement FIFA, celui d'octobre. Le premier chapeau, celui des têtes de série, comprend les 7 nations les mieux classées, ainsi que la Russie, le pays organisateur, c'est-à-dire l'Allemagne tenant du titre, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France. Chacun des 4 chapeaux sera ensuite vidé tour à tour. Le chapeau numéro 2 avec l'Espagne, le Pérou, la Suisse, l'Angleterre, la Colombie, Mexique, Uruguay et Croatie. Le chapeau numéro 3, Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Égypte, Sénégal et Iran. Et le chapeau numéro 4, la Serbie, le Nigeria, l'Australie, le Japon, le Maroc, le Panama, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite. On rappelle que 2 pays d'une même confédération ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe, à part les pays européens, à raison de 2 pays européens maximum par groupe.
Et la Coupe du Monde 2026 ira au Maroc où à la tricandidature États-Unis-Canada-Mexique.
États-Unis-Canada-Mexique d'un côté, le Maroc de l'autre. C'est ce qu'a confirmé hier la Fédération internationale de football pour l'organisation du Mondial 2026. Le pays organisateur sera désigné en juin prochain. On rappelle que Américains, Mexicains et Canadiens font figure de favoris face aux Marocains. Et cette Coupe du Monde 2026 sera la première Coupe du Monde à 48 sélections. En juin, le Conseil de la FIFA sélectionnera les candidatures. Il faudra alors un vote lors du Congrès, le 68e de la FIFA. Il aura lieu à Moscou avant le début de la Coupe du Monde. Allez, Drissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Cleveland Cavaliers et Atlanta Hawks, 121-114. Philadelphia Sixers et Boston Celtics, 97-108. Chicago Bulls et Denver Nuggets, 110-111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur les manifestations dispersées hier en République démocratique du Congo. Des leaders de l'opposition et quelques autres protestataires ont été brièvement interpellés. Au micro d'Eddy Issango, l'opposant Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement.
Les militaires et les policiers sont venus s'interposer et ont commencé à nous tabasser, à nous donner des coups et à arrêter les membres qui étaient avec nous. Et finalement, c'était tellement chaud, on nous a amenés dans un quartier général de la police qui se trouve effectivement au lieu où nous devions commencer la marche, c'est-à-dire à l'échangeur de l'unité. Ils nous ont tabassés, copieusement tabassés, torturés même, et ils ont des montres, des appareils, de l'argent et tous nos membres qui étaient là. Nous sommes restés là près de 3 heures. Le secrétaire général de l'UDPS a été mis au cachot. J'ai trouvé un contre-député Jean-Bertrand Ewanga qui lui était appréhendé avant nous. Suite aux pressions, ils ont compris qu'ils devaient nous relâcher.
Votre manifestation n'a pas eu l'impact que vous attendiez. Allez-vous récidiver?
Oui, la marche a eu un impact parce que dans toute la République démocratique du Congo, des gens dans les villes, dans les grandes villes, des gens ont manifesté et ils ont fait exactement la même chose qu'à Kinshasa, arrêter les gens, empêcher. Mais la manifestation, donc la marche, s'est transformée en marche plus ville morte.
Vous protestez contre un projet de loi déposé au Parlement. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet de loi?
D'abord, l'affaire de PPRD Gate, c'est-à-dire cette collusion patente entre le parti de M. Kabila et la Commission électorale nationale indépendante. Il y a des réunions qui se sont organisées entre ces partis et le président de la CENI pour trouver les moyens de faire passer cette loi en discussion à l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs illégitime. Cette loi qui contient des éléments discutés en famille politique, des éléments que le PPRD a donné à la CENI et que dans l'élément sonore que Jeune Afrique a relevé par rapport à la réunion qu'ils ont eue, par exemple, monsieur le président de l'Assemblée nationale qui dit que le président de la CENI les a aidés en faisant accepter à tout le monde la machine à voter et que cette machine à voter avait pour seul objectif que le PPRD puisse être majoritaire au Parlement sans les autres. Sous d'autres cieux, monsieur Minaku, président de l'Assemblée nationale, monsieur Nanga, président de la CENI, devait déjà démissionner.
Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement à Kinshasa.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Le Niger va bientôt se doter de normes pour encadrer la pratique de la religion musulmane dans le pays en vue de prévenir la radicalisation et l'extrémisme religieux violent. Un forum s'est tenu à cet effet cette semaine à Niamey. Compte rendu de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Les principales recommandations du forum sont allées dans le sens de la prise en compte des expériences des pays comme le Tchad et le Sénégal, invités pour parler de la manière dont ils gèrent ces questions à leur niveau. Ismaël Ndiaye du Sénégal et Adoum Abdraman venu du Tchad.
Au Tchad, nous avons des règlements qui sont en vigueur qui cadrent un peu la construction de mosquées de vendredi. Par exemple, c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui donne mandat au Conseil supérieur des affaires islamiques pour qu'ils puissent étudier le terrain. Est-ce que là où on doit construire la mosquée, ce n'est pas sur un terrain litigieux? Et on a quand même des règlements qui encadrent la construction de mosquées. Avant, c'est comme il y avait une anarchie, chacun vient, il donne sa prêche. Mais maintenant, d'abord, il est interdit qu'on fasse les prêches dans les lieux publics. La deuxième chose, pour sortir aller prêcher, il faut absolument obtenir une autorisation de prêche du ministère de l'Intérieur. Sinon, vous serez arrêté et traduit en Djamena.
L'expérience du Sénégal est une expérience quand même assez heureuse, parce que le Sénégal, avec son organisation en chefferie traditionnelle et religieuse, fait que souvent, ceux qui dirigent les mosquées ont une appartenance, soit confrérique ou une appartenance à des associations bien organisées, reconnues par l'État et avec... qui l'État entretient de bonnes relations. On a mis en avant la communication entre les autorités temporelles et les autorités spirituelles, entre le religieux et l'État. On a une certaine harmonie dans le dialogue, dans les échanges, et ce qui permet à tout un chacun de se sentir responsable du vécu et du devenir du pays.
Le ministre en charge des questions religieuses a pris l'engagement ferme de vite traduire en actes concrets les conclusions de ces 3 jours de réflexion. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur.
Dans le tout prochain jour, Inch'Allah, les services compétents de mon département seront instruits pour élaborer dans les plus brefs délais une feuille de route de mise en œuvre de ces recommandations pour que tous les acteurs concernés par la question religieuse soient mis à contribution.
Pour Mustapha Ahamadou, prédicateur nigérien et participant au forum, les autorités ont même tardé à penser à cette question.
Aujourd'hui, j'ai comme l'impression dans ce pays que l'islam, c'est la religion la plus facile à pénétrer, à entrer. Même si tu ne connais pas, tu peux prétendre faire la prêche. Or, il faut nécessairement réglementer les choses. C'est pourquoi je dis qu'il fallait les faire pas aujourd'hui. Parce que le mal a été déjà cautionné. Mais alhamdulillah, mieux vaut tard que jamais.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Dans quelques années, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, aura sa première ligne de métro. Le coup d'envoi des travaux en vue de la réalisation de ce projet a été donné ce jeudi par le président ivoirien Alassane Ouattara en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron. D'Abidjan, reportage de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Près de 1 milliards de francs CFA, c'est ce que va coûter le premier métro de la ville d'Abidjan. En donnant ce jeudi le coup d'envoi des travaux de ce projet colossal, le président français Emmanuel Macron a indiqué que la France n'avait jamais auparavant financé un projet d'une telle ampleur à l'étranger.
Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Je veux remercier les entreprises françaises, les financeurs français qui sont engagés derrière vous à vos côtés. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Mais avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger.
Quant au président ivoirien Alassane Ouattara, il se réjouit déjà des répercussions de ce projet.
Ce projet dont je souhaite l'aboutissement rapide est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an.
La nouvelle ligne de métro sera longue de 37,5 km et partira de la commune d'Anyama dans le nord d'Abidjan pour arriver à Port-Boué dans le sud en zone aéroportuaire. Elle desservira une vingtaine de gares, traversera les communes d'Abobo, Adjamé et Trècheville, ce qui devrait permettre de transporter jusqu'à 500 000 passagers par jour. Au sein de la population abidjanaise, le démarrage des travaux en vue de la mise en marche de ce métro est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne initiative et ça n'arrange que tous les Ivoiriens. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés pour se déplacer à Abidjan. Hein?
Oui, tout à fait, il y a beaucoup de difficultés, surtout avec les minicars, donc il y a toujours les bouchons. Et avec ces trains-là, vraiment, on pourra vaquer facilement à nos occupations.
C'est quelque chose qui va permettre aux Abidjanais de circuler sans beaucoup de difficultés. Je pense que c'est d'abord là l'objectif à atteindre, parce qu'il y a tellement d'embouteillages maintenant et les déplacements sont difficiles. Mais au-delà de ça, en tout cas, j'espère que ça va donner de l'emploi aux Ivoiriens, parce que c'est ce qui est important.
Les travaux sont menés par des groupes français, Bouygues pour le génie civil, Keolis pour l'exploitation et Alstom pour le matériel roulant. Les travaux vont durer 4 années. Les Abidjanais pourront emprunter leur premier métro en 2021. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés
branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Foire internationale de Lomé, pour cette édition qui s'est ouverte la semaine dernière, l'événement se veut non seulement une rencontre commerciale, mais aussi de partenariat entre opérateurs économiques avec en toile de fond le digital. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Seuls 5% des entreprises togolaises opèrent dans le secteur du numérique. Un chiffre très bas pour un pays qui veut faire de l'économie numérique un axe prioritaire de développement, ce qui a poussé le Centre togolais des expositions et foires CTF à organiser la 14e Foire internationale de Lomé sous le thème « Le numérique au service des affaires ». Pour que le numérique puisse vraiment se mettre au service des affaires, certains préalables sont indispensables, estime Honoré Fiadjo, conseiller au ministère de l'économie numérique.
Des lois ont été votées pour encadrer le secteur. Il faut renforcer ces lois, notamment dans le cadre de la cybersécurité et lutter contre la cybercriminalité. Il faut passer maintenant à la dématérialisation des données, des documents et procédures administratives. Il faut mettre en œuvre la signature numérique pour donc faire en sorte que les paiements puissent se faire en ligne, faire en sorte qu'on puisse procéder aux démarches administratives en ligne. Je crois que c'est des process challenge pour faire en sorte que le numérique devienne vraiment un outil au service des affaires.
Le numérique est un outil qui peut aider à faire prospérer les affaires. Ginette Aouvé, responsable d'une start-up, en est convaincue, mais assure que la réputation sur la toile serait sa première bataille.
Ce que l'Internet peut nous permettre de faire avec les affaires, l'Internet peut essayer de donner une image à nous. En tant qu'entrepreneur, avec le numérique, je vais essayer de me donner une identité en ce qui concerne les activités de la communication. Je vais chercher des informations qui me concernent pour essayer de donner une image pour que cette image que je vais essayer de transmettre sur le web ou bien sur l'Internet ne soit pas une image bafouée, mais une image qui peut être profitable pour moi.
Un salon du numérique se tient en marge de ce rendez-vous commercial de Lomé avec au programme diverses conférences thématiques. Tatienne Sosuga, présent à la Foire internationale de Lomé, vient de suivre une conférence sur l'identité et la réputation numérique.
Moi, j'ai pu retenir que des publications sur les réseaux sociaux nuisent à notre réputation. Au lieu de mettre votre propre nom, vous mettez des noms bizarres. Ça nous ennuie, quoi, dans notre réputation. Parce que aujourd'hui, c'est le numérique qui est à la base de toutes choses. Avec ça, on peut prospérer dans les affaires.
Du 24 novembre au 11 décembre 2017, la plus grande fête foraine du Togo se met au rythme du digital pour permettre aux opérateurs économiques de se familiariser avec cet outil qui est devenu incontournable dans le monde des affaires. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Lyndon dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laissez vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale à la console d'Imé Cook. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.